والمقيم لغيره. C'est-à-dire qu'il s'est établi par lui-même. Non? Il s'est établi par lui-même et a établi les autres. Il n'a pas de... Il n'a pas de début. Il ne connaîtra pas de fin. Mais a établi tout ce qui existe. Et tout ce qui existe connaît un début et une fin. Et ne survit que par le biais de la subsistance que lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde. Donc tout ce qui existe a besoin d'Allah et Allah n'a besoin de qu'une créature. C'est un résumé de ce qu'on peut dire de Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun hadhi sifatu hayatillah. Ça c'est les qualités de la vie d'Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Regardez cette précision. La ta'khudhuhu sina. Le somnolement ne le prend pas, ne l'envahit pas. Voilà l'homme, ni le sommeil. Là où ma fille samawa, tu vois ma fille. Alors, il possède tout ce qui existe sur terre et dans l'au-delà. Et quand tu as compris que voilà qui est Allah, tu peux avoir besoin d'un autre en dehors d'Allah. Voyez l'importance de la connaissance d'Allah, de la compréhension. De la connaissance d'Allah, wallahi, quand on comprend qui est Allah, on ne peut avoir besoin d'un autre en dehors d'Allah. C'est pour ça que les compagnons avaient atteint le degré d'élévation d'âme qu'ils avaient atteint. Ya'akhi, après la bataille de Uhud. Alors qu'ils avaient perdu la bataille. Mais regardez la différence entre nous et les compagnons. C'était des personnes qui avaient compris les textes de la révélation. Qui se soumettait au test et se remettait en question. Quand on perd une bataille, c'est une musiba, non? C'est une musiba, c'est un malheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout ce qui vous atteint comme malheur provient de ce que vous avez fait. Et cependant, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. C'est-à-dire que s'il ne vous frappe qu'en fonction de vos désobéissances, personne ne devrait plus exister sur terre. Donc, il y aura fait Allah nasa bima kasabu. La ajala lahum al-azab. Si Allah subhanahu wa ta'ala frappait les gens en fonction de leur désobéissance, il allait précipiter sur eux le châtiment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous châtie, nous éprouve pas les malheurs pour nous sortir de l'insouciance. Pour qu'on se remette en cause et reprenne le chemin. Donc, les compagnons étaient sortis pour lutter sur le sentier d'Allah. Le prophète leur a donné des recommandations. Et du point de vue islamique, on ne se doit pas désobéir au prophète. Quelle que soit la raison, on ne doit pas désobéir au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que personne n'est miséricordieux envers nous, comme le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ces instructions n'ont pas été respectées parce qu'il avait posté certains compagnons sur une montagne qu'on appelait Jabal Rouma pour surveiller l'arrière des compagnons de l'armée des musulmans. À un niveau, les mécréants ont senti que la bataille tournait à leur perte. Ils se sont repliés. Les compagnons ont cru que les mécréants fuyaient. Et le prophète avait été clair que ceux qui sont postés sur ces montagnes, que personne ne descend, ne bouge. Parce que le prophète parle, non, sur la base des passions, sur les fruits de ses expériences personnelles. Quand tu désobéis au prophète, rappelle-toi. Qu'en réalité, la barbe que tu es en train de raser là, quand le prophète l'a recommandé, ce n'était pas lui qui le recommandait. C'était la révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il fait ces recommandations, c'était sur la base de la révélation. Et comme Allah qui révèle ce qui se produira, quand même le prophète lui-même ne sait pas encore, il a reçu. Il a donné ces ordres qui étaient basés sur la révélation. Quand les mécréants ont fait ces replis stratégiques,
Est-ce que les musulmans, comme ils ne connaissaient pas l'individu, ont compris que c'était un repli stratégique? Mais s'ils s'étaient attachés à la recommandation prophétique, est-ce qu'ils devaient avoir des problèmes? Ceux qui étaient postés sur cette montagne ont cru que les mécréants étaient en train de fuir et ils avaient laissé le butin. Regardez comment le diable fait. Ils se sont dit, est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont désobéir au prophète? Est-ce qu'ils ont même pensé à désobéir au prophète? Mais ils se sont dit que c'était temps qu'on descend de ramasser le butin et ils ont oublié qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas bouger. Quand ils sont descendus, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, qui était encore dans le rang des mécréants et qui était un guerrier expérimenté, a fait ce constat et a compris que l'arrière des musulmans était vide. Alors, il a monté une stratégie et les musulmans se sont retrouvés encerclés par les mécréants. Parce que personne ne pouvait les contrôler en arrière et repousser l'ennemi. Les musulmans se sont retrouvés entre les mécréants, au milieu, encerclés par les mécréants. Ce jour-là même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été blessé. Il avait même, et sa dent avait été cassé, et son visage avait été blessé. Sallallahu alayhi wa radiyallahu an sahabatihi ajma'in. Et les musulmans ont perdu la bataille. Mais très vite ils ont compris la leçon. Regardez la théorie. Très vite ils ont compris la leçon. Alors qu'ils étaient en train de rentrer à Médine, après avoir perdu la bataille, quelqu'un est venu leur dire que les koufars se sont préparés et qu'ils vont les exterminer. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lahum. Allah leur a mentionné dans le Coran. Et regardez l'importance historique. Imaginez cette situation. Les gens sont en train de revenir de la bataille. Ils ont perdu la bataille. Mais ils se sont remis en cause, ils ont compris pourquoi ils ont perdu la bataille. Parce qu'ils avaient désobéi au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le chemin de retour, on est venu leur annoncer qu'ils vont encore faire une jihad. Parce que les ennemis se sont préparés et qu'ils reviennent pour les exterminer. Le prophète a changé de destination. Alors qu'il y en avait parmi eux des blessés, lui-même était blessé. Ils ont dit, si c'est comme ça, s'ils viennent nous exterminer, c'est exterminer l'islam. Parce que c'était eux les musulmans de l'époque. Et tu es le prophète et tous ses compagnons revenaient à dire qu'on allait éteindre l'islam de la surface de la terre. Est-ce qu'ils se sont laissés faire? Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lahum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah. Et ils ont emprunté le chemin de la bataille. Dans ces conditions, Allah les mentionne dans le Coran en disant, rappelez-vous de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux à qui les gens avaient dit, les gens se sont préparés pour vous exterminer. Écoutez bien, pourquoi est-ce que ça leur a augmenté la foi? Pourquoi est-ce que ça leur a augmenté la foi? Qui a compris? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'éprouver les croyants. C'était une épreuve pour eux. Ils sortaient d'une bataille qu'ils avaient perdue à cause de la désobéissance. Ils ont fait la tauba. Allah les a éprouvés. Pour voir jusqu'où cette tauba peut aller. Jusqu'où l'obéissance peut aller. Parce que quelqu'un qui vient de perdre une bataille, qui est affaibli et qu'on lui annonce que l'ennemi contre qui il a perdu la bataille s'est préparé et est en train de revenir. Vous imaginez l'état moral? Mais quand le prophète leur a dit, on va aller les rencontrer à tel endroit, on va aller se rencontrer avec eux à tel endroit, ils ont compris que c'était une épreuve. Et que réussir face à l'épreuve, c'était obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fazadahum imana. Quand ils ont vu le prophète, ça leur a plutôt augmenté la foi, en piété. Et ils ont dit la parole des gens de Tawhid. Ils ont dit Hasbun Allah. Hadha huwa mahal shahid. Par rapport à nous, ils ont dit Allah nous est suffisant. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. C'est lui qui comprend qui est Allah. Qui sait qui est Allah, c'est qu'Allah lui est suffisant. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire à mon noble papa qui est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève un degré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longévité dans l'obéissance, ainsi qu'à tous nos parents. Parfois, lorsqu'il est souvent secoué par certaines épreuves, lorsque nous sommes souvent secoués en famille, je lui pose souvent une question, je ne sais pas s'il se rappelle. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a quitté son trône? Il me dit non, je dis alors patientons. Parce qu'Allah nous est suffisant. Parce que celui qui a compris qui est Allah, c'est qu'Allah lui est suffisant. وقالوا حسبنا الله الله هو السفيزان ونعم الوكيل il est le meilleur protecteur sur qui on peut compter. Yeah, c'est lui qui compte sur Allah, qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être déçu, ne peut être déçu. Donc on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. On doit étudier ces noms là. C'est que ces noms comportent comme quintessence et mettre en pratique ces implications, ce qu'implique ces noms. Yahi, quand tu comprends Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé toute créature. Et que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a précédé son châtiment. C'est pour ça qu'en réalité, n'est châtié que celui qui a refusé, qui a décidé de sortir de la miséricorde d'Allah. C'est celui-là qui est châtié parce que lui-même a décidé de sortir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se livrer au châtiment d'Allah. Ar-Rahman. C'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indique sa miséricorde qui a enveloppé toutes ses créatures. Ni eu cette miséricorde, le mécréant n'allait pas goûter à une goutte d'eau sur terre. Mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, même envers les mécréants, qu'ils continuent à vivre malgré leur mécréance. Qu'ils continuent à jouir de certains biens éphémères de ce bas monde malgré leur mécréance. Parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a précédé son châtiment et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a envahi toutes choses. Et parce que ce bas monde ne représente rien pour Allah. C'est pour ça qu'il le donne à tout le monde. لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة إن الله ما تقى منها كافر شربة. Si ce bas monde représentait ne serait-ce que la valeur de l'aile d'une mouche auprès d'Allah, le mécréant n'allait pas goûter à une gorgée d'eau sur terre. Mais c'est parce que ce ballon-là ne représente rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à tout le monde. Quant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet d'accéder au paradis, Allah ne l'accorde qu'à ceux qui se sont mis dans la posture de ceux qui bénéficient de cette miséricorde. Allah ne l'accorde qu'à ceux qui se sont mis dans la posture de ceux qui à qui il a promis cette miséricorde et qui sont des croyants. Et c'est ça qu'indique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Ça veut dire que quoi? Si on a compris comment adorer Allah avec ses noms, je suis juste en train de citer l'exemple, je ne peux pas citer tous les noms d'Allah, mais on va citer des exemples qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on adore Allah, comment est-ce qu'on maîtrise les noms et les attributs d'Allah. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Il y a des noms qui ont des rapports avec certaines recommandations d'Allah. Soit les rapports avec des choses autorisées, soit avec des choses interdites. Par exemple, Al-Mutakabbir. C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment est-ce que vous traduisez Al-Mutakabbir en français? L'orgueilleux. Non? Qu'est-ce que l'orgueil? Qu'est-ce que l'orgueil? Al-Mutakabbir, ça veut dire que quoi? C'est celui. Non? C'est celui qui pense. C'est celui qui pense qu'il est grand que les autres. Et c'est ça qui fait naître en lui l'orgueil. Parce qu'il pense qu'il est grand que les autres. En ce lui-là, c'est qui? Parce qu'il pense qu'il est plus grand que lui. Ça y est. En réalité, qui est celui qui est réellement plus grand que tout le monde? C'est Allah. Parce qu'en réalité, au-dessus de chaque grand, il y a un autre plus grand que lui. Au-dessus de chaque grand, il y a un autre plus grand que lui. Pourquoi donc être orgueilleux? Et quelle que soit la grandeur de la créature, c'est une grandeur qui a des manquements. Yahi, regardez. Le président de la République de n'importe quel pays est une grande personne. Mais quand il doit faire les besoins, il doit faire la même chose que font les autres. C'est une grandeur qui a des manquements. Parce que naturellement, Allah l'a rabaissé. Et quand c'est le moment de le faire, même s'ils sont en réunion mondiale, il va quand même s'excuser. C'est un rabaissement naturel. Pour nous rappeler la nature de notre grandeur et la différence qui existe entre cette grandeur et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahi, malgré son statut, pas mes gars, il peut se lâcher et gêner les gens. Et ça lui rappelle sa nature. Et que malgré sa grandeur, il est une petite création parmi les créatures, une petite créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la nature et le statut d'un homme, il a besoin d'enfants et il recherche les enfants. C'est pour dire combien de fois nous sommes petits même quand nous pensons être grands. Donc, c'est pour ça qu'Allah a interdit l'orgueil. Parce que dans l'islam, l'islam n'admet pas le faux. Tu n'es pas grand. Au fond, tu n'es pas grand. La vérité, c'est que tu n'es pas grand. Parce que la chose qui élève et qui fait grandir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Or, ce qu'implique la piété, ce qu'enseigne la piété, c'est at-tawadu. C'est l'humilité. L'humilité. Or, celui qui est vraiment grand, c'est Allah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans son takabbur. Parce qu'Allah est grand. Il n'a besoin de personne. Lui-même se voit grand. Parce qu'en réalité, il est grand. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nom, tu crois que c'est un nom parmi les noms d'Allah parce que Allah l'a enseigné dans le Coran. Et éviter d'avoir en soi un lien parmi les liens qui relèvent, ou alors un caractère parmi les caractères qui relèvent de l'orgueil. Parce qu'en réalité, au fond, nous sommes petits. Nous sommes petits. C'est comme ça qu'on adore Allah avec ce nom, par exemple. Et Ar-Rahman et Ar-Rahim, comment est-ce qu'on adore Allah? C'est quoi que c'est un nom parmi les noms d'Allah parce qu'Allah nous l'a enseigné dans le Coran. Parce que le prophète nous l'a enseigné dans la Sunna. Mais il faut savoir que cette croyance doit respecter une démarche. Tu'minu anna lillahi anna sifat ar-rahma min sifatillah fatuthbituha lahu ala ma yaliqu bi jalalihi. Nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs qu'il s'est attribué en fonction de sa, hein, de sa majesté. C'est ça que les innovateurs n'ont pas compris. Ils pensent que quand les Ahl Sunna disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, ça veut dire qu'Allah a la langue comme nous. Qui peut se montrer la langue? Qui a les dents? Ya akhi hadha fahmun sufi khabith. Ça c'est une compréhension suffisante, mauvaise. Nous ne faisons que attester de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même attesté. Nous ne faisons que ce n'est même pas nous qui l'attribuons ce nom. Nous ne faisons que croire au nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué. Et ça entre dans la croyance. Mais cette croyance doit être basée sur une démarche qui est la croyance au nom et à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de sa majesté. Ça veut dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable à la parole de l'homme. Parce que la majesté de l'homme n'est pas comparable à la majesté d'Allah. Nous avons pris l'exemple. Non, nos majestés, quand ils ont besoin de leur femme, ils sont obligés de se rabaisser. Donc on ne peut pas comparer la majesté de la créature à la majesté du créateur. Et c'est sur cette base qu'est basée l'affirmation ou alors la croyance au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère, certains soufis disent qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est comme ses créatures. Parce qu'eux, ils ne comprennent la colère qu'en fonction de leur raisonnement dépourvu de la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a parlé de sa colère. Donc ça veut dire qu'il se met en colère. Mais c'est une colère qui s'accorde avec la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala peut être en colère contre un serviteur et lui accorder le délai de la repentance. Mais est-ce que quand nos majestés sont en colère contre quelqu'un, est-ce qu'il lui donne même la possibilité de l'exprimer? On vient seulement dire. Parfois on vient seulement leur dire que tel a dit. Il ne cherche même pas à vérifier, se met en colère et le frappe. Est-ce qu'on peut comparer la colère d'une telle créature à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en conformité avec la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala par exemple avec le nom Ar-Rahman Ar-Rahim? On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Et que cette miséricorde se divise en deux catégories. Une miséricorde large qui englobe toutes les créatures et une miséricorde restreinte qui ne s'applique que sur ceux qui se sont mis dans la poursuite de ceux qui doivent bénéficier de cette miséricorde. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé d'être miséricordieux envers les croyants et envers toutes les créatures. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, c'est donc être miséricordieux envers tous les croyants de manière générale et de manière particulière envers les croyants. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Man la yarham, la yurham ». Celui qui ne se montre pas miséricordieux envers les créatures d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui est pas miséricordieux. Ça veut dire que celui qui n'accorde pas une miséricorde particulière à Allah, au Créateur, à ceux qui se sont mis dans la posture de ceux qui bénéficient de la miséricorde particulière, ne doit pas bénéficier de la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'a pas adoré Allah avec le mot de nom Ar-Rahim. Donc la miséricorde qu'on se doit d'avoir vis-à-vis du croyant et d'une nature. Et ce qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de l'humanité et d'une autre nature. Mais les deux sont tous des miséricorde. Ça veut dire que le croyant se doit d'être miséricordieux envers l'humanité.
Hatta al-kafir, nam, hatta al-kafir, ya ikhwa.
Non, non. Donc, je rappelle que vous savez qu'à l'époque, on disait que on donne les chats aux gens pour qu'ils embrassent la sunna. Il vous rassure que cette parole n'a pas de fondement. Et que ça, c'est un chai simple. Et que les gens de sunna ne connaissent pas un chai compliqué. Je vous en prie, au frère. Il faut rappeler, c'est important de rappeler. Parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas vu le chat ici, parce qu'ils ont peur. Non, ce n'est pas avec le chat que les gens de la Sunna achètent les gens. C'est avec Al-Aqidat al-Sahiha. C'est avec le dogme pur. C'est à travers l'exposition du dogme pur que les gens de la Sunna achètent les gens. Barakallahu fikoum. Hey. Non, j'étais donc en train de dire que le musulman qui a compris Tawhid al-Asma wa Sifat et miséricordieux envers l'humanité. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, lui-même était une miséricorde pour l'humanité tout entière. Les croyants comme les mécréants. Qala Allah ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Ça veut dire que celui qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit d'être une miséricorde pour l'humanité tout entière. Le mécréant comment? Le croyant. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam éprouvait une miséricorde particulière au croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Ça n'est pas des croyants. عزيزٌ عليكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ça c'est une miséricorde particulière. Il vous a été envoyé un messager issu de vous. Ça veut dire que le croyant se voit comme quelqu'un qui fait partie de sa communauté. Il voit ses frères comme il voit lui-même. C'est pour ça qu'il aime pour son frère, c'est qu'il aime pour sa propre personne. Attention, il faut bien comprendre ce hadith aussi. Il aime pour son frère, c'est qu'il aime pour sa propre personne. Ça veut alors dire que tout ce qu'il possède, il doit donner à son frère. Et s'il n'a pas donné à son frère, il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour sa propre personne. Cette compréhension du hadith est une compréhension erronée. Ça veut plutôt dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé et qu'il aime, il aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la même chose à son frère. C'est qui tue la jalousie. C'est qui tue la jalousie. Et ça veut dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son frère quelque chose qu'il aime pour lui-même, qu'il n'a pas accordé pour lui, il accepte et aime. Parce qu'il aime ça pour lui-même. Si les musulmans avaient compris la aqidah, est-ce qu'on devait avoir des problèmes de jalousie? Est-ce qu'on devait être là assez tiraillé pour les biens matériels? Parce que l'autre a eu ce que nous n'avons pas eu. La Abadan. C'est parce que nous avons encore des problèmes dans la Tawhid. Dans Ubudullah, voilà tout ce qui est assez là. On n'a même pas encore bougé. On a encore des problèmes. Vous voyez que depuis le matin, on ne parle que de ça. Et on se rend compte qu'on a des problèmes, effectivement. Donc c'est ça le sens du hadith. Donc, le prophète avait une miséricorde particulière qu'il consacrait aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala en faisant allusion à cette miséricorde dit « La Kadija akum rasul min anfusikum » Il vous est certes venu un prophète issu de vous-même. Le musulman voit ses frères comme lui-même. Il voit la communauté musulmane comme sa communauté. Azizun alayhi ma anittum. Ça veut dire que Azizun alayhi, il éprouvait de la gêne. C'était lourd pour lui tout ce qui était gênant pour vous. Écoutez bien. Tout ce qui est gênant pour les croyants était lourd pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par les choses qui gênent dans la religion. qui gêne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui engendre le châtiment et éloigne du paradis.
C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre les innovations.
Contre le shirk,
contre les innovations.
Parce que c'est lourd pour lui tout ce qui gêne les musulmans,
en commençant par ce qui gêne dans leur religion.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الى كيف تترجم حريص عليكم نعم الى très attaché
aux musulmans.
Le croyant se doit d'être attaché. Ça, ça fait partie des choses qui relèvent de la miséricorde qu'on se doit d'avoir entre nous. Nous devons être attachés les uns des autres, ressentir le malheur qui frappe les autres. C'est pour ça qu'Atalia a été légiféré. Le souhait de condoléances, parce que quand quelqu'un te souhaite les condoléances, il compatit à ton malheur. Ça veut dire que lui aussi, il a compris ce qui t'arrive, qu'il est touché par cela, et il t'apporte son soutien. Vous voyez la relation de tout ça avec la tawhid. Harisun alaykum. C'est pour ça que quand le musulman est malade, on se doit de lui rendre visite à l'hôpital. Parce que ça manque, ça prouve cet attachement et cette miséricorde qui devrait exister entre les croyants. On doit venir en aide aux besogneux, prendre soin des orphelins. Harisun alaykum. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Le musulman et les musulmans sont comme une bâtisse. Regardez ce bâtisse, cette bâtisse. Regardez comment les briques sont. C'est ça qui a formé la mosquée. C'est comme ça que la communauté musulmane devrait être, si elle avait compris la tawhid, si elle avait réellement concrétisé la tawhid, si elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs comme il se doit. Parce que c'est ce que cela implique automatiquement. Harisun alaykum. Il était attaché à la communauté. Et c'est comme ça que nous devons être attachés, comme le prophète a dit. Le croyant est pour le croyant, il a fait ça avec ses mains devant le croyant. Le croyant est pour le croyant comme une bâtisse, comme les éléments d'une bâtisse, parce que c'est comme ça que sont les éléments d'une bâtisse. C'est comme ça. Yashuddu ba'dahu ba'da, ils se soutiennent les uns les autres. L'un ne se relève que par le soutien de l'autre. Et l'autre ne se relève que par le soutien de l'autre. C'est comme ça qu'ils sont. Bil mu'minina raoufun rahim. Et il éprouvait de la arrafa. C'est la compassion. Et la mansuétude pour les croyants. Et la miséricorde. Voilà les enseignements, voilà les implications de la concrétisation du tawhid. Lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ses noms et de ses attributs, on concrétise par là la tawhid. Donc, on était en train d'expliquer comment est-ce qu'on maîtrise les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit sortir ces noms, on doit regrouper ces noms. Soi-même, on ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man ahsahu. Mais il faut que ce soit, ça concerne celui qui le fait, qui fait ce travail. Il faut que tu les regroupes, que tu t'intéresses à ces noms, que tu cherches à comprendre. Parce que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pleins de science, sont pleins de connaissances, sont pleins de secrets à découvrir. On doit les détecter, les réunir, les étudier et mettre en pratique ces implications. Et nous avons cité des exemples. Celui qui le fait, dakhala al-jannah. Parce que cela ne peut conduire qu'au paradis. Yahri, parce que ça te permet toi de connaître qui est Allah. de comprendre qui est ton Seigneur et de l'adorer comme il se doit. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer par le biais de ses noms. Ça veut dire que cela implique automatiquement qu'on apprenne ses noms. Ça veut dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, qu'est-ce qui montre que l'apprentissage, parce que nous avons dit que c'était un autre pilier de la connaissance d'Allah, l'apprentissage des noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une obligation, parce qu'Allah dit walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et Allah subhanahu wa ta'ala appartient les bons noms et ses attributs, les bons noms. Alors adorez Allah via ses noms. C'est une injonction divine, c'est une obligation. Or, il est établi qu'on ne peut pas l'adorer par ses noms si on ne connaît pas ses noms. Et si on ne connaît pas les implications de ses noms, ça veut dire que min al-ilm al-wajib alladhi yajib 'ala al-mar'i talabuhu talab ma'rifati asma'illahi wa sifatihi. Ça veut dire que parmi les choses qui relèvent de la science obligatoire, c'est la recherche de la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Parce qu'on a l'obligation d'adorer Allah avec ses noms et ses attributs. Et cela n'est possible que lorsqu'on connaît ses noms et ses attributs. Ça, c'est le premier pilier. Nous ne sommes que sur le premier pilier de la connaissance d'Allah. C'est le premier pilier sur lequel repose l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on parlait des trois fondements sur lesquels repose l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons essayé de résumer ce que c'est que la première science obligatoire qui est la connaissance d'Allah. C'est connaître Allah dans sa seigneurie. La seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, se reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que cette reconnaissance de l'unicité implique, et se reconnaître les noms d'Allah et ses attributs, connaissance qui ne peut passer que par le savoir, par l'apprentissage. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé par ça en disant al-ilm. La première chose que tu dois bien connaître, c'est la science. C'est quoi cette science? Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Est-ce que tu dois connaître Allah comme tu veux, comme le soufi? La bil adilla ya akhi, c'est bil adilla, c'est sur la base des preuves évidentes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad hana waqt al-adhan fa la'allana naqif inda hadha al-adh wa yu'adhana. Barakallahu fikum.